quoi nous? On lit quoi nous? On lit quoi nous? L'émission.
Connaissez-vous l'abécédaire des métiers imaginaires? À la lettre K, on trouve le kinésithérapeute consolateur de saule pleureur. Quand François manipule le vieux saule du parc, la surface de l'étang monte de 20 cm. Ce raz-de-marée lacrymal survient une fois par trimestre, lorsque le poids de la vie tire un peu trop sur les branches de saule le saule. Chatouillis de coccinelles, bise du vent frais, collation faite de restes de pique-nique. Quand plus rien n'y fait, il est alors temps de consulter. François, il connaît son métier. Allez, on respire lentement et on relâche tout. Êtes-vous prêt pour tout relâcher avec nous? Bonjour Véro.
Bonjour Monsieur Simon.
J'espère que vous allez bien. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle année. On s'excuse encore de notre absence mois dernier.
On aime trop la montagne.
On était resté à la montagne. donc on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison dans l'Iquanou. On sait qu'on commence à être écouté un petit peu partout, donc on remercie tous ceux qui nous écoutent. Et on va continuer de parler de littérature jeunesse cette année, avec par exemple là, c'était un extrait d'un livre dont on va reparler qui s'appelle Abécédaire des métiers imaginaires de Anne Montel, publié chez Little Urban. Et puis toute l'année, on va parler de livres qui nous ont plu, qui nous ont émus, qui nous ont fait pleurer, qui nous ont fait rire.
Voilà,
on est prêt pour une nouvelle saison.
Complètement.
Parfait. Alors on va commencer comme d'habitude avec une petite musique et ce mois-ci le disque choisi s'appelle Tous des chats. C'est un disque de Pascal Parisot. On en reparle tout de suite, mais on écoute d'abord À quoi ça sert un chat.
À quoi ça rêve un chat? Ça rêve d'une mer de croquettes. Ça rêve d'une plage de croquettes, d'un crocotier plein de croquettes. Ça rêve d'une glace à la croquette. À quoi ça rêve un chat? Ça rêve d'une montagne de croquettes. Ça rêve qu'il neige des croquettes. Ça rêve d'un Père Noël plein de croquettes. D'une bataille de boules de croquettes. À quoi ça rêve un chat? Ça rêve de jouer à la roulette, de miser deux ou trois croquettes, d'empocher une somme coquette, une somme coquette de croquettes. À quoi ça rêve un chat? Les chats.
Oh, j'ai envie de jouer du saxo là.
Eh ben vas-y. Qui parlent en dormant.
Ah mal.
Ben oui. Se trahissent unanimement.
Ça apporte un petit truc.
Bien sûr. Tous les chats rêvent en cachette de rencontrer.
Oh, j'ai toujours envie de jouer de la guitare. Tu peux pas? Passe-moi ta guitare.
Tiens. Davy Croquette.
Croquette, la première fois que je t'ai vu, je t'ai aimé. Et mon amour pour toi, Croquette, est toujours aussi fort. Je sais, tu m'as surpris un jour avec une boîte de thon, mais tu sais, ce n'était qu'une passade.
Mais oui.
Au fond, il n'y a que toi qui compte vraiment, Croquette. Je t'aime, Croquette. Je t'aime quand tu te parfumes au bœuf, au poulet, au lapin.
Et au saumon.
Croquette, tu es la croquette de ma vie. Je ferai un domaine où la croquette sera roi, où la croquette sera loi, où tu seras reine. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer, Croquette.
Ne sois pas si cruelle, Croquette.
Ma petite Croquette.
l'aurez compris, le nouveau disque de Pascal Parisot est plutôt humoristique.
Un peu déjanté.
Un peu déjanté, effectivement. Ça s'appelle donc, ce titre s'appelle à quoi ça rêve un chat et pas à quoi ça sert. On peut se demander aussi. Hein.
Oui, mais il n'y a pas de réponse.
Dans une autre chanson, il y répond. Et donc sur ce morceau, vous avez peut-être reconnu la voix d'un célèbre musicien français, n'est-ce pas?
Oui, mais parce que vous me l'avez dit.
Ah d'accord, je vais vous le dire. Peut-être, auditeur, vous avez reconnu la voix de Vincent Delerme. Car effectivement, cet album, en fait, c'est une reprise de chansons qu'il a déjà écrites depuis quelques années, qui s'appelait Cha Cha Cha, qui a été publié chez Didier Jeunesse.
Vincent Delerme ?
Non, Pascal Parisot.
D'accord.
Qui est quand même l'interprète principal et le créateur, en fait, de ces chansons.
D'accord.
Et pour cet album, il a décidé de reprendre certaines de ses chansons, d'en faire une histoire, en fait. Pascal a disparu. Et tous ses amis vont venir chez lui pour essayer de retrouver Pascal.
Mais sauf que c'est un chat.
Non, c'est Pascal Parisot.
Ah, d'accord. Non, mais
sauf
ça
que
va aller. Hein.
Au lieu de voir Pascal, en fait, il y a un énorme chat gris avec des lunettes de soleil qui est sur le canapé. Et donc, ça va être le héros de cette histoire.
D'accord.
Et donc, on va apprendre effectivement à quoi ça rêve un chat. Donc
c'est une comédie musicale.
C'est une sorte de comédie musicale, tout à fait, pas très très loin. Avec la voix de Thibaut de Montalembert, que j'aime beaucoup, moi.
Oui, dans les textes lus, c'est
exactement.
Bien.
Et donc, c'est lui qui va raconter cette histoire. Et vont se succéder Rosemary Stanley, la grande Sophie, Albin de la Simone, Alexis HK, qu'on écoutera tout à l'heure, Oldelaf, Émile Loiseau, Arthur H, Vincent Delerme, donc on a écouté tout de suite. Agnès Jaoui. Et donc Pascal Parisot qui est tout le temps là en fait avec ses amis. Donc c'est un vrai plaisir de trouver tous ses amis en fait, hein, parce que ce sont tous d'excellents musiciens. Interpréter les chansons de Pascal Parisot. Si vous aimez les chats, ce livre devrait vous ravir. Et puis les illustrations en plus sont magnifiques. C'est Charles Berberian qu'on a connu dans le duo Dupuis et Berberian en bande dessinée. Qui s'y colle.
Ah oui.
Et ouais, il y a quelques années. Quelques années. Monsieur Jean, il faisait notamment.
Ah oui, Monsieur Jean.
Vous vous souvenez ?
Un grand ado pas terminé.
Voilà, c'est ça. Et donc, ça donne tout ça. Ça donne Tous des chats de Pascal Parisot et ses amis. C'est publié chez un éditeur que j'aime beaucoup, moi, qui s'appelle Le Label dans la forêt. Qui fait de très beaux livres de CD, puis qui a un très beau nom. Et voilà, c'est à découvrir tout au long de cette émission avec d'autres morceaux qu'on découvrira bientôt.
C'est une belle façon de commencer l'année.
Ouais, c'est pas mal, hein ?
Ouais.
Ouais, moi j'adore. Puis ça donne envie en fait de danser aussi,
ouais.
Voilà. Puis d'avoir un chat, de caresse,
ouais,
tout ça.
Ouais.
Enfin bon, on va parler de livres un petit peu encore ?
Un petit peu, oui.
Allez, on va commencer comme d'habitude par les plus jeunes, on va remonter les âges de l'enfance.
De
et
l'enfance,
on commence avec les tout petits,
Véronique. Voilà, avec Ma poule Raboule, d'Edouard Manceau.
Un fidèle de cette émission.
Un fidèle aussi des tout petits, hein, parce qu'il a, à son actif, il a beaucoup de livres ciblés tout petits, mais qui sont délicieux à lire et à lire à voix haute, hein, Ma poule Raboule. Donc, il s'agit d'une poule, on est chez Milan, hein. Il s'agit d'une poule, coucou. Dit la poule, voilà ma poule qui raboule avec une mini poule. Mais ce n'est pas une mini poule, c'est une mini boule. Une mini boule, ce n'est pas une mini poule, ce n'est pas non plus un joujou, ce n'est pas non plus un doudou, c'est un coco à piou piou. Avec ses plumes douces comme du poil de toutou, la poupoule couvre le coco à piou piou. La poupoule couvre, 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 et coucou! Elle a couvé longtemps, la poupoule. La coquille se fendit, les pupilles scintillent. C'est une fille! You, un bébé poupoule! Coucourou, coucou, la poupoule. La poule, je sais bien. Enfin, Mimine, babille la fille. Appelle-moi Moumoune, glougloute la poule. Appelle-moi Moumoune. Mais tu dégoupilles, tu pars en vrille. Où spille la fille? Quoi, quoi, quoi? T'es gaga ou quoi? On ne parle pas comme ça à sa moumoune. S'agace le papa qui était au Wawa. Eh ben, quelle famille! Bim! Déjà une bisbille, dit la fille. Je décanille, je me rhabille, je me recroqueville et je me faufile dans ma coquille. Taratata, si c'est ça, on s'en va, clame le papa. Fais la moule dans ta bouboule, glousse la poule. Vous entendez mes doigts sur le... C'est un semi-cartonné. Papa, moumoune. Ah, qui revoilà, dit le papa. Notre petite moule qui raboule, répond la poupoule. Oui, fini les broutilles, promis, je serai gentille. Et vive la vie de famille, babille la fille. Ça, c'est la classe. Une histoire qui finit comme ça, blablate le papa. Mais bon, c'est pas tout ça, moi, mais il faut que je retourne au Wawa. Moi aussi, dit la fille, je me tortille, j'ai envie de faire pipille. Et moi, glougloute la poule, j'ai envie de faire coucou. Voilà. C'est absolument réjouissant. Ça a une pêche d'enfer. Et c'est un vrai bonheur à lire. Voilà, ma poule, ma poule Raboul.
Au dessin, on retrouve toujours le dessin.
Toujours ce dessin un peu caricatural, très simple d'une certaine façon, mais très dynamique, grande dynamique. C'est drôle, bel écho avec le texte, et c'est vraiment un régal à raconter.
Puisqu'on parle de personnes qu'on aime bien dans cette émission, je vais continuer avec Infidèle aussi de cette émission, c'est le nouvel album de Mathieu Maudet, et Véronique est tellement émue qu'elle en fait tomber sa gourde.
Ah oui.
Voilà. Ce nouvel album de Mathieu Maudet s'appelle Occupé.
Ah ben oui, Wawa.
Voilà, tout à fait. C'est toujours chez Loulou et compagnie, à l'école des loisirs, et c'est un petit peu la suite de J'y vais. Vous vous souvenez de J'y vais? J'y vais, c'est ce petit oiseau qui avait une forte envie d'y aller et qui allait voir tout le monde en disant « J'y vais !» Et puis tout le monde lui donnait soit une casquette, un verre d'eau.
Il partait vraiment à l'aventure.
C'est ça. Et puis on découvrait, mystère, je ne voudrais pas spoiler cette fin d'histoire, il arrivait dans un tronc d'arbre où il y avait quelque chose de très utile quand on a très envie de faire pipi.
À tous les êtres humains.
Voilà. Eh bien, dans ce nouvel opus qui s'appelle donc Occupé, la couverture nous présente donc le petit chaperon rouge. On sait que Mathieu Maudet aime bien reprendre les personnages des contes pour les tout-petits, puis c'est vrai qu'ils sont connus. Donc le petit chaperon rouge est devant l'arbre, on voit bien que ce sont des toilettes. Et il y a le panneau occupé. Et on voit à sa façon de tenir ses mains qu'elle a très envie de faire pipi. Et donc voilà, ça donne ça. Oh là 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 là, oh, j'ai envie de faire pipi. Oh, des toilettes. Ouf. Touk touk touk. C'est occupé. Arrive le petit cochon. Vite, vite, vite. C'est occupé. Arrive le deuxième petit cochon. Poussez-vous, c'est urgent. Retiens-toi, la place est prise. Arrive le petit oiseau de J'y vais, qu'on retrouve.
Ah oui, avec son parapluie.
J'y vais ! Bah nous aussi ! Bah attends ton tour, hein ! Ça y est, t'as terminé ? 2 minutes. Allez, sors, on est pressé ! Je tire la chasse. Alors ? 2 secondes, je mets ma culotte. On n'en peut plus ! Je mets mon pantalon. C'est bon, j'ai fini. Ah ! Je me lave les mains et... Je sors. Ah ! Bah, plus personne ne veut aller aux toilettes finalement. Bon, alors j'y retourne. J'ai pas fini mon livre. Je ne vous dirai pas quel est le personnage.
Bah non,
finalement,
non.
Vous le découvrirez en ouvrant ce livre. En tout cas, voilà, c'est un grand plaisir à raconter. On retrouve toutes les ficelles de Mathieu Maudet qui sont toujours admirables parce qu'on retombe toujours sur ses pattes. Et puis il y a toujours cette petite surprise de la fin. Enfin, c'est du grand Mathieu Maudet, comme d'habitude.
Et moi, je lance un appel aux étudiants ou aux sociologues, étudiants en sociologie, pour qu'ils fassent une enquête. Moi, j'aimerais bien savoir combien de personnes lisent réellement aux toilettes, pas forcément sur leur téléphone.
Bah, moi, je lis aux toilettes, par exemple.
Moi aussi, depuis très longtemps.
J'ai toujours fait ça.
Ouais.
C'est très important.
Bah, apparemment, ce personnage aussi.
Bah oui, c'est important quand même.
C'est très important.
Hein, n'est-ce pas? Puis il faut commencer tout petit, à côté du pot. Moi, mes enfants, ils avaient toujours le pot et un livre.
Et un livre, ouais.
Ce qui permet d'attendre tranquillement à ce que doit arriver,
que
arrive.
Que la nature se fasse.
Voilà, n'est-ce pas? On fait un petit moment revival avec un grand classique retour, que vous voulez nous présenter.
Voilà. Un grand classique qui a rétréci au lavage, je ne sais pas, mais qui
s'appelle
en tout cas. Le livre, Les livres des saisons. C'est un coffret. Des 4 livres de Rotrao, Suzanne Berner. On est à La Joie de Lire, notre éditeur suisse qu'on aime beaucoup. Et c'est, je ne sais même plus les premières, la première édition, quelle année c'est, mais ça a au moins 20 ans.
Je pense que c'est dans les années 80, puisqu'elle a reçu le plus grand prix allemand de littérature, le Jungen Literaturpreis, n'est-ce pas? En 1984. J'ai travaillé.
Ah, quand même.
Ah, vous voyez, j'ai travaillé.
Avec cela.
Ah bah j'imagine que c'était un peu pour cela, donc ça doit être forcément au début des années 80, ce qui effectivement confirme que ça fait même plus que ça, parce que presque 40 ans.
Oui, bah oui, le double.
Et, ouais.
Et il s'agit de 4, à la base, c'est 4 grands livres, un livre par saison, hein. Et pour les avoir rescrutés tout à l'heure, on commence par le livre de l'hiver. Et puis ensuite, on va... Alors, c'est une double page à chaque fois. Alors, ce que j'aimais aussi dans ces grands livres, c'est qu'on pouvait s'étaler dessus, aller regarder tous les détails. On est un peu chez Charlie, un petit peu, mais sauf que je trouve que le dessin est vraiment très, très travaillé. Les détails sont vraiment savoureux. C'est plein de couleurs. Et ce sont des vies quotidiennes, hein, des vies de tous les jours, de plein de personnages, dans une ville, et avec une grande maison, enfin, un grand immeuble central, puisqu'il y a beaucoup de gens à habiter cet immeuble. Et le livre de l'hiver, on va démarrer avec plusieurs personnages, et beaucoup de personnages d'ailleurs, que ce soit des animaux, que ce soit des humains, qu'on va suivre de saison en saison.
Oui, parce qu'il y a même une femme, par exemple, qui est enceinte dans
un bébé en hiver,
et après on la voit avec la poussette.
Voilà, alors l'enfant. Le bébé, il grandit au fur et à mesure, elle est en porte-bébé aussi, enfin voilà. Et on va suivre un perroquet, on va suivre un chat, enfin, il y a une foule de détails, de métiers qui sont adaptés à chaque saison, et on ne s'en lasse jamais. C'est un livre, on arrive évidemment à l'automne, puisque c'est la fin de la saison, de la série, on va dire, et on a envie de repartir en hiver et d'aller regarder, voilà. Et c'est un vrai... Moi, j'adore ces quatre livres qui sont à voir. Alors, on peut en regarder un seul, hein, mais à voir ensemble, c'est un vrai régal. Et on peut passer... Avec des enfants, on peut passer des heures dessus. Et là, en voyage, eh bien, ben, pas forcément en voyage, dans un espace plus petit, on peut ouvrir ces quatre livres, tourner les pages à chaque fois des quatre livres à la même période, et on voit l'évolution des personnages.
C'est vrai que je n'avais pas pensé qu'on pouvait le faire avec les quatre.
Oui, moi je l'ai fait toujours avec les quatre. Mmh. J'adore, moi.
C'est vrai.
Parce que là, les histoires se croisent. Et j'ai encore découvert des détails que je n'avais pas vus, alors que je les regardais quand même pas mal de fois. Depuis 40 ans ? Non, pas depuis le début, ouais, depuis 20 ans, ça c'est sûr.
Et il y a aussi le livre de la nuit qu'il ne faut pas oublier, qui est dans la même...
Oui,
qu'on oublie souvent parce qu'il n'y a que la
saison.
C'est
vrai, oui.
Le livre de la nuit reprend aussi ce
nuit.
Principe qui est très très beau. Et ils ont fait aussi les éditions La Joie de lire, ils ont fait aussi une sorte de compilation, on a les quatre dans le même livre,
oui,
cette fois-ci, mais plus grand.
Mais il est épuisé, j'ai été voir.
Mais je crois qu'il ressort justement, c'est pour ça. Il me semble qu'il ressort au printemps.
D'accord.
Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de nouveautés, mais c'est important
mais là,
de s'arrêter sur des livres plus anciens.
et
c'est vrai que le travail de Rautraut, Suzanne Berner, est essentiel.
Et remarquable. Au niveau de la petite enfance, c'est son personnage Tommy. Je vous le conseille vraiment beaucoup parce que c'est des situations. Alors il y a Tommy qui vit sa petite vie de petit enfant avec son papa, sa maman, tout ça. Et toujours en bas à droite, il y a la petite poule. On revient à ma poule, ma boule, hein. Mais Raboul. Et son petit poussin qui font exactement les mêmes choses que Tommy en grand format. Et c'est un régal, ces histoires dans l'histoire et tout. Voilà, c'est merveilleux.
Très bien.
Merveilleux.
Eh bien, on va continuer à découvrir ces auteurs-là, puis à suivre aussi les rééditions des livres de cette auteure allemande qu'on aime beaucoup. Cette autrice allemande, pardon. Venez, vous voulez continuer avec un livre assez original qui s'appelle Les puces et le renard.
Les puces et le renard. Alors, je suis restée en arrêt quand j'ai terminé ce livre. Les puces et le renard, c'est Laura Bellini qui nous offre cette histoire sans texte à l'atelier du poisson soluble. Toujours.
Donc, on part en
poisson.
Italie. Je crois que c'est une autrice italienne.
C'est possible. Mais là, on est dans un univers d'étang. Hein. C'est un étang et c'est un renard. Alors, d'abord, j'ai été marquée par l'univers, justement. Un univers d'aquarelle, un petit peu. Alors, j'ai été voir parce que je ne connais pas bien les types d'illustrations. Et de craie, apparemment, les personnages principaux.
C'est de la craie grasse, c'est de l'acrylique.
C'est de l'acrylique. Mais ils ont mis craie.
C'est ce qui est marqué sur le site.
Ah bon,
marqué de l'acrylique et de la craie grasse.
Et de la craie grasse, oui, il y a bien de la craie. Et c'est un régal, c'est un bonheur avec différentes, je dirais, plantes superposées. Il y a plein de petits détails aussi. L'histoire est savoureuse, elle est drôle. Une histoire sans fin, d'une certaine façon. Les mots apparents ne nous manquent absolument pas. On trouve les mots tout de suite dans notre tête, il n'y a pas de souci. Et ce pauvre renard avec deux petites billes rondes qui donnent une humanité, enfin oui, une sorte d'humanité à ce renard, il est drôle, on dirait presque un chien, commence à se gratter au début de l'histoire. Vraiment, il a ses puces qui l'embêtent et tout. Et il décide d'aller au milieu de l'étang pour, pas spécialement les noyer, mais les abandonner à leur sort sur un nénuphar, quoi. Sauf que les puces, c'est des malines, et elles ont attrapé des poils du renard, elles les ont tissés avec les plantes, et elles, vers la fin, elles réintègrent la berge, elle retrouve le renard et elle ressaute sur le renard et ça recommence. Mais c'est vraiment délicieux et c'est surtout cet univers et cette peinture, elle est extraordinaire. Avec ces tout petits personnages de puces qui ont des pattes comme vous et moi, monsieur.
Tout Simon. À fait, moi j'ai beaucoup de pattes.
J'ai jamais regardé de près une puce, mais je ne crois pas qu'elle se tienne debout en se tenant la main comme ça, mais enfin... Pourquoi pas ?
Sait-on jamais.
Pourquoi pas ?
Sait-on jamais.
Pourquoi pas ? Mais on les voit très très bien embêter le renard et c'est très très drôle parce que le renard est toujours persuadé qu'il va s'en débarrasser et ça
on
n'arrive
pas. On est presque
pas.
Aussi dans la bande dessinée puisqu'il y a petites séquences en fait, même dans les pages, il y a des pages uniques mais il y a aussi des doubles pages où il y a quatre images différentes.
C'est ça. Oui, c'est comme... Un petit dessin animé aussi, et c'est ces petites fleurs qui sont, ces petites plantes aquatiques qui sont dessinées
au crayon,
à gauche
aussi.
Et à droite. C'est joli, c'est beau, c'est touchant, c'est... Moi j'adore.
Alors il faudra quand même qu'on m'explique le pourquoi du comment du retour du renard, où il y en a mais partout des renards en ce moment. C'est-à-dire que c'est le personnage
on
animalier star du moment. On en avait parlé avec Joe Todd Stanton, Julien le renard, petit renard Chablis Michel aussi.
C'est vraiment en ce moment...
Il y a plus d'une 10 ou quinzaine d'albums avec des renards en situation.
Bah, c'est beau,
renard. J'adore moi les renards, c'est rigolo de voir comment des animaux comme ça...
Hop, puis c'est l'année du rat en plus, donc rien à voir.
L'année du renard.
Du renard, c'est ça.
On va continuer avec justement l'album... Vous en avez déjà un petit peu parlé, enfin en tout cas je vous ai donné à lire ce magnifique abécédaire des métiers imaginaires. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est un livre de Anne Montel. Anne Montel, on la connaît essentiellement pour son travail en bande dessinée avec Loïc Clément. Elle avait fait, bon, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure parce qu'il y a une superbe réédition en bande dessinée du Temps des Mitaines. Elle avait illustré Chaussettes, elle avait illustré pas mal d'albums qui sont vraiment magnifiques. Et pour elle, toute seule, pour la première fois en tant qu'autrice aussi et illustratrice, elle a créé cet abécédaire des métiers imaginaires. Donc c'est un vrai abécédaire. Nous allons de A à Z. Il y a toutes les lettres, exactement. Et à chaque fois, elle invente, elle crée, elle imagine un métier. Alors ça va de l'attrapeuse de chat dans la gorge, au barbier de barbe à papa, au cultivateur de cœur d'artichaut. J'aime beaucoup celui-là.
Ah oui.
Cornelius se lève aux aurores sans pester, le cœur léger. C'est un agriculteur obsédé du bonheur. Il fait pousser avec tendresse des chardons succulents pour qu'ils soient dégustés lors des rendez-vous amoureux. Mmh. C'est beau, hein ? À la lettre D, on a la démaquilleuse de panda. La nouvelle mode est à l'œil sans cerne. Quelle injustice pour les pandas, mais quelle aubaine pour Phil O'Neill, l'inventrice de l'anticerne Flash Extrême, à base de liqueur de bambou et de poudre d'eucalyptus séché. Bien qu'elle ne manque pas de travail, Phil O'Neill ne peut que regretter la situation. Quel dommage, tous ces pandas qui veulent ressembler à des ours polaires. Ils étaient si charmants, naturels. Voilà. Et donc on va suivre la fumeuse de brouillard, le gardien de flocons de neige, l'habilleur de momies, l'inspecteur spécialisé en chaussettes perdues, hein, le jockey de cheval de manège.
Ah oui, c'est
très bien celui-là. Il pense toujours gagner la course, mais il n'y arrive jamais à passer son concurrent. Le lanceur d'étoiles filantes, ils sont bien aussi eux. C'est petit bolide de lumière qui déchire la voûte céleste pour rejoindre les éclaboussures lactées, minuscule bijou lumineux qui habille les ciels d'été. Les lanceurs d'étoiles filantes sont des couturiers cosmiques. Ils brodent des écussons incandescents sur le manteau noir de la nuit.
Mmh, c'est beau.
Ah, tout est de cet acabit. C'est un très très beau livre. Un livre poétique, un livre qui fait du bien, dans lequel on a envie de se plonger. Et puis c'est un livre aussi à partager avec vos enfants. Vos enfants petits pour les faire rêver, vos enfants plus grands pour inventer exactement. Et j'imagine tout à fait toutes les inventions qu'on pourra créer à partir de ce livre-là.
Ah oui.
Puisqu'en plus une image en amène une autre.
On devrait devenir formateur de métiers imaginaires.
Ah mais complètement. Mais ce livre-là, je pense qu'il va susciter des
vocations.
Des vocations, tout à fait. il faut inventer des nouveaux métiers. De toute façon, on nous dit qu'il n'y a plus de travail, donc du coup, il faut inventer des nouveaux métiers.
Forcément.
Donc moi, je veux bien devenir, allez, un petit dernier pour la route, je vais devenir, web créatrice de nuages.
Web créatrice de nuages.
Ouais, c'est quelqu'un qui dessine, une petite grenouille qui dessine des nuages sur son ordinateur pour qu'il crée les vrais nuages.
D'accord, ok.
Allez, voilà, on se quitte avec ce livre. En tout cas, si vous voulez rêver, je vous invite vraiment à découvrir ce livre. Maintenant, Véronique, vous allez parler d'un livre qui est un petit peu moins gai, n'est-ce pas ?
Oui.
Ça s'appelle On va où.
Oui, oui, il est beaucoup moins gay celui-là, oui, tout à fait. Il y aura quelques livres un peu pas très gays durant l'émission.
Et par contre, vous n'avez pas envie de parler de livres avec du texte aujourd'hui?
Ben non, celui-là est sans texte.
Encore un livre sans texte.
Alors, voilà, je cherche ma... On va où, voilà, c'est ça. Donc pour moi, c'est un livre court, très court. Un livre choc, un livre terrible, vraiment terrible. Un livre où tout est dit. Alors, c'est encore une histoire de banquise, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, de la magnifique histoire de l'un et l'autre, de Laurent Tardy chez Bill Bocquet, que je vous avais lu la dernière fois. Eh bien, cette fois, c'est aussi une histoire de rencontre. Deux êtres vont se rencontrer sous la forme d'un livre qui se lit dans les deux sens. D'un côté, on a une pleine page d'un ours polaire. De l'autre côté, on a la pleine page d'un jeune homme dans une embarcation. Donc cet ours dérive dans un sens et dans l'autre sens, ben, l'être humain dérive aussi. Et au milieu du livre, il y a la rencontre. On y arrive assez vite. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de texte. Il y a un choix d'illustration en noir et blanc, en traits verticaux. C'est ça qui m'a marqué le plus. Tout est vertical. Et c'est vraiment... Alors je dis en noir et blanc, il y a un fond bleu de... sur les couvertures. Ouais,
mais elle travaille au stylo bic en fait,
ouais,
au stylo bic noir.
Ouais,
ça,
hein. Ouais.
Ce et qui c'est... donne aussi ce côté vertical, c'est qu'elle est toujours dans une...
Voilà, c'est absolument, ça donne un... Bon, c'est grave, c'est même assez lourd puisque c'est le thème. On imagine que ce jeune homme dans un esquif, c'est un réfugié et ce pauvre ours polaire, il n'a pas le choix, mais il essaye de se réfugier ou sur du dur. Il n'y a plus de banquise, mais sur quelque chose de dur. Et la page centrale, il y a la rencontre de l'ours et de l'être humain. Qui est absolument extraordinaire,
avec
un regard en plus, ils ont le même regard grave, tout est dit dans ce livre, j'ai envie de l'envoyer au président des États-Unis, moi, je pense
qu'on peut l'envoyer à beaucoup de présidents.
À plein de présidents, oui, ouais. Oui, mais c'est vrai que tout est dit, c'est absolument somptueux, magnifique, donc ça s'appelle « On va où ?», il n'y a pas la réponse, ils vont se rencontrer, c'est sûr. Elle s'appelle Cécile Serre et on est chez Cipango,
ouais.
Que j'ai pas eu
jeune éditeur
le temps
en fait,
d'aller
qui,
voir.
Jeune éditeur qui vient du Puy-de-Dôme.
D'accord, oui c'est ça, Massif voilà, Central.
À côté de Clermont-Ferrand.
Ouais, ouais d'accord.
Et
qui
publie un petit peu, hein, qui veulent sur leur site, ils disent vouloir explorer le monde, donner à voir les autres cultures dans leur richesse et leur diversité. Affirmer les valeurs de l'éveil, de la sagesse, de la curiosité. Voilà. On va une aventure solidaire.
Mais ce livre n'a pas besoin de texte. Le texte non. Est...
Je trouve qu'il est beaucoup plus fort sans texte.
Bien hein. Sûr.
Et un texte n'aurait fait qu'alourdir en fait le propos de l'image qui est
tout
absolument superbe. C'est une vraie belle découverte. Hein. Mm. Elle avait fait 2-3 livres mais qui étaient réservés, qui étaient plus des contes basques je crois ou si je me souviens bien.
Plus spécifique.
Voilà, plus spécifique.
Local,
là il y a un vrai côté universel qui est magnifique. On découvre son style effectivement avec son crayon bic tout en verticalité.
C'est incroyable.
Et elle est, il me semble qu'elle est architecte de formation et même peut-être de travail, de métier.
Il y a des cubes.
Il y a quelque chose dans l'architecture qui est...
Un peu cubique.
Voilà,
ouais.
Enfin, c'est un très très bel homme,
c'est
je suis
magnifique.
D'accord.
Voilà.
Et bien voilà, par contre c'est vrai que c'est pas très très gay. Hein,
c'est pas très gay, on n'a pas fini avec, avec des choses qui sont pas très gays, mais on est dans l'actualité, on est dans des questions, c'est même pas des questions à se poser, je pense qu'on se les pose tous. Mais quand on peut les illustrer, quand on peut en parler sous cette forme, c'est extraordinaire.
Et vous savez quoi ? On va parler aussi d'un livre qui fait rire.
Qui fait rire ?
Générique.
Oh yeah.
Ben oui, c'est le temps des coups de cœur. Et puis moi, j'ai envie, je sais pas, j'aime les textes qui sont un peu grognons comme ça.
Ah ouais.
Par exemple, on pourrait écouter un peu de musique comme ça, ouais. Ça fait quoi la musique ? Ça, c'est Alexis HK.
Ah oui. T'es ronchonchon.
Bon, moi j'aime bien.
T'es ronchonchon.
Ah ouais. Vous connaissez? Ouais, je connais. Ça, je connais plein de ronchonchons.
Ouais, c'est la famille ronchon.
Ouais. Mais ça vous voit pas les ronchonchons? Vous êtes pas ronchonchon.
Moi j'en connais un. J'en connais un, c'est Gaston. Gaston, il est grognon.
Ah oui.
C'est Gaston Grognon.
Gaston Grognon.
Gaston Grognon, c'est Suzanne Lang et Max Lang. Et c'est chez Casterman.
D'accord.
On n'a qu'à lire.
On discute pas.
On a qu'à lire.
Ok.
Ok.
Il n'y a qu'à y aller.
Un beau matin, Gaston le chimpanzé se réveille et s'aperçoit que rien ne va plus. Le soleil est trop chaud, le ciel est trop bleu et les bananes sont trop sucrées. Gaston n'y comprend rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, tu es peut-être grognon, suggère son voisin Bernard. Je suis pas grognon, proteste Gaston. Un peu plus loin, il rencontre Marabout. Gaston est grognon, explique Bernard à Marabout. Pourquoi es-tu grognon, Gaston ? Demande Marabout. C'est une si belle journée. Grognon ? Moi, je suis pas grognon, dit Gaston. Bah, regarde comment tu te tiens, insiste Marabout. C'est vrai, dit Bernard, t'es tout assez. Alors Gaston se redresse. Puis il tombe sur Lémurien. Gaston est grognon, explique Bernard à Lémurien. Bah, pourquoi es-tu grognon, Gaston ? Demande Lémurien. C'est une si belle journée. Grognon ? Moi, je suis pas grognon, dit Gaston. Tes sourcils sont froncés, remarque Lémurien. C'est vrai, dit Bernard. Ton front est tout froissé. Alors Gaston se lisse le front. Puis il trébuche sur serpent. Oh non, s'écrie Bernard, c'est vraiment pas de chance, tu vas être encore plus grognon. Grognon, moi je suis pas grognon, dit Gaston. Alors pourquoi cette grimace, demande serpent. Je pense que c'est parce qu'il a trébuché sur toi, chuchote Bernard à serpent. Alors Gaston fait un grand sourire. Comme ça, Gaston a l'air heureux. Mais au fond de lui, il n'est pas heureux. Tout le monde veut que Gaston profite de cette belle journée. « Chante avec nous !» lui conseillent les oiseaux. Mais Gaston n'a pas envie de chanter. « Balance-toi avec nous !» lui conseillent les singes. Mais Gaston n'a pas envie de se balancer. « Fais des roulades avec nous !» lui conseillent les zèbres. Mais Gaston n'a pas envie de rouler. « Fais les parades avec nous !» lui conseillent les paons. Mais Gaston n'a pas envie de parader. « Allonge-toi dans l'herbe !» Tape des pieds par terre, prends un bon bain, si tu barbotes, ça clapote, fais des câlins, hé, hey, rigole mon pote, fais une bonne sieste, mange une viande bien pourrie, ou mon miel favori, fais des bons à l'air, pose-toi au soleil, dans une toile derrière. Mais Gaston n'a envie de rien. Mais pourquoi es-tu grognon, Gaston, s'étonne tout le monde, c'est une si belle journée. Je ne suis pas grognon, hurle Gaston à plein poumon, et il part d'un air furieux. Gaston est triste. Un peu d'avoir crié sur tout le monde et surtout de se sentir si mal. On dirait bien que je suis grognon, soupire Gaston. Et alors qu'il a vraiment envie de pleurer, il voit Bernard. Bernard est tout voûté. Il a le front froissé et les sourcils froncés. Bah, qu'est-ce que t'as ? T'es grognon ? Demande Gaston. Non, j'ai dansé avec Porc-Épic. Aïe, répond Bernard. Est-ce que ça va ? Demande Gaston. Ça fait mal, hein. Mais ça va sûrement passer, dit Bernard. Tu es toujours grognon ? Oui, dit Gaston, mais pour moi aussi ça va sûrement passer. Pour l'instant, j'ai besoin d'être grognon. C'est une belle journée pour être grognon, dit Bernard. Oui, dit Gaston. Et déjà, il commence à se sentir un peu mieux.
Oui,
c'était donc Gaston Grognon de Suzanne
subtil, hein,
et Max Lang.
C'était la grognonnerie.
Eh, c'est pas facile. Max Lang, d'ailleurs, qui est un auteur très connu, puisqu'il c'est un réalisateur de films d'animation. Et il a été plusieurs fois récompensé, puisque c'est lui qui a fait le Gruffalo.
Ah oui.
C'est lui qui a fait La Sorcière dans les airs. C'est lui qui a fait Monsieur Bout de Bois.
C'est pas le petit-fils de Fritz Lang ?
Je pense pas.
Ou l'arrière, petit-fils.
Enfin bon, c'est pas grave. Allez, on a qu'à écouter un petit peu de musique. On va écouter Pascal Parizeau et Alexis HK. Tiens, le revoilà, le gars. Qui faisait partie des invités de Pascal Parizeau avec Totale Confiance.
La patte avant droite en l'air. La patte avant gauche en l'air. Même chose pour les pattes arrière. Ah, qu'on est bien sur le dos bien étalé, les quatre pattes levées. Il ne peut rien m'arriver. Ah, qu'on est bien dans cette position-là. Tous les livres sur les chats vous le diront mieux que moi. Je suis en totale confiance.
Confiance.
Et ce sourire béat qui ne s'explique pas. Que la Joconde, tu vois, à côté, c'est du pipi de chat. Ah, qu'on est bien, les doigts de pâte écartés, les moustaches déployées, le trou de balle bien aéré. Ah, qu'on est bien sur ce morceau de tissu que j'ai rendu tout poilu et que je ne quitte plus. Ce t-shirt élimé qui sent bon le rat crevé. Ce t-shirt que papa met pour couper du bois. Totale confiance. Confiance. Tel que vous me voyez là, je ne fais pas du yoga. Non, je ne suis pas mort au combat, je suis simplement un chat en totale confiance. Confiance.
Ah, on est bien en totale confiance avec Pascal Parisot et Alexis HK. Qu'est-ce qu'on est bien ? Qu'est-ce qu'il est bien cet album ?
Ouais, ça a l'air.
Les chansons étaient déjà magnifiques, mais c'est vrai que là, en plus, revisité par des gens qu'on aime, et Alexis HK, nous, on l'aime. Voilà, donc c'est totale confiance dans l'album Tous des chats de Pascal Parisot. On continue avec des albums encore, mais des albums pour les plus grands.
Oui.
Car ça nous est cher de promouvoir des albums pour les grands.
Tout à fait.
C'est important.
Pour les grands et pour les très très grands, pour vous et moi.
Mais oui, quand on dit pour les grands, c'est-à-dire que c'est... Moi, les livres, c'est toujours à partir d'eux. C'est jamais, voilà. Il n'y a jamais de date de péremption.
Voilà, c'est ça.
Et vous allez nous présenter l'élan Evenki.
Evenki. Et les Evenki, c'est un peuple de la Chine du
Mongolie.
Nord. Mongolie.
Mongolie.
Ouais. Et donc, qui ont l'habitude de chasser les élans, d'ailleurs, de partir à la chasse pour chasser les élans. Dans les élans, c'est très grand, un élan très gros. Donc, il y a beaucoup de viande, il y a beaucoup de choses à prendre. Ils sont aussi éleveurs de rennes. Et un matin, je cherche son nom, un habile chasseur, il s'appelle Gelishenke. Il est déjà pas mal âgé quand même, mais enfin bon, il tient bien la route. Il est avec son beau chien qui est un vrai berger du Tibet ou de Mongolie, je ne sais plus. Enfin, c'est vraiment des chiens en voie de disparition aussi. Donc tous ces animaux, c'est une histoire vraie. Donc tous les animaux qui sont représentés existent. Enfin vraiment, on va rentrer dans cette forêt de Mongolie intérieure, derrière Gelishenke, qui va abattre un élan. C'est
la dure réalité, mais ils le font pour se nourrir.
Et il abat un grand élan, sauf que il aperçoit une forme dans un fourré. Et là, on tombe sur le bébé parce qu'il a battu la maman. Et le bébé le regarde avec des grands yeux candides et il va s'approcher de lui et il ne va plus jamais le quitter. Il va y avoir une histoire. Alors évidemment, Gelishenke va élever ce petit élan avec du lait de renne. Il se trouve qu'un élan, les rennes c'est pas très grand, mais l'élan est très très grand et il va grandir très vite. En plus celui-là c'est un élan un peu géant, on va dire. Et ça devient assez encombrant puisque Gelischenke, sur son lieu de chasse, il a un grand tipi. Et bah, l'élan qu'il a appelé, je ne vais plus savoir, ça veut dire petit élan en chinois, en mongol, pardon, excusez-moi. Et donc, il va vraiment... Ils vont s'attacher l'un à l'autre, ça va être très très fort, mais il se trouve que Gelischenke est déjà pas mal âgé, il va plus pouvoir retourner sur son lieu de chasse, donc il va être obligé de revenir au village. Il emmène avec lui celui qui est devenu très grand, un élan adulte. Évidemment, c'est pas simple du tout, il se bat contre les chiens, il en dégage, je sais pas si vous voyez, les bois d'un élan, c'est absolument énorme, donc il a une force gigantesque, et les chiens dégagent, enfin, bon, c'est une horreur. Et donc, eh bien, Gelischenke sent quand même que sa fin est proche et il va emmener cet élan dans la forêt, le ramener dans la forêt, le chasser vraiment à coups de pierre. Enfin, il va essayer de faire en sorte qu'il s'en aille. Voilà, donc c'est toute cette histoire. Et puis, en plus, bon, bah, Gelischenke va mourir dans la forêt aussi. Voilà, il y a toute cette histoire de vie. Oui, oui, mais c'est la vie. C'est la vie. Et ce qui est magnifique, les illustrations sont sublimes et ce personnage d'élan est absolument, en plus c'est parfois très drôle, on le voit faire ses bêtises, il est vraiment épouvantable dans toutes les bêtises qu'il a inventées et tout, et il va se mêler au renne, il se prend pour un renne, enfin voilà, et il y a surtout cette grande confiance, comme un peu les canards, vous savez, quand ils naissent et qu'ils s'attachent à leur à la première personne qu'ils voient, bah, cet élan, c'est ce qui s'est passé, et il prend vraiment Gelischenke pour son père. Donc c'est très très fort. Il y a l'histoire du chien aussi qui accompagne.
J'aime beaucoup vraiment l'illustration de Juher, je sais pas comment on dit.
Vous
savez peut-être.
Non, je connais pas. Juher, oui.
Ça c'est l'illustratrice et qui faisait d'abord de l'illustration, de la sculpture, de la peinture, oui. Et qui est donc maintenant illustratrice pour livres pour enfants. Et je trouve qu'il y a un côté à la fois un peu statique dans son dessin. C'est pas un dessin très dynamique, oui. Mais je trouve que ça correspond tout à fait aux forêts de Mongolie où on a une espèce de lenteur du rythme de vie qui peut se passer en montagne, et ça correspond exactement à l'ambiance qu'on a de ça. Et il faut savoir que Black Rain, l'auteur, qui est chinois aussi, c'est un grand écrivain de la littérature animalière chinoise.
Chinoise, ouais, d'accord.
Et que c'est vraiment c'est un peu le Jack London chinois. Enfin, il est plutôt reconnu pour ça et c'est lui qui signe le texte de ce très très bel album.
C'est une très belle histoire justement d'animaux d'aventure en forêt. Vraiment très très chouette. Rue du Monde, hein. On est chez Rue du Monde.
Qui du coup se renouvelle un peu dans ce genre d'album, parce qu'on avait, on connaissait Rue du Monde engagé, sur des thématiques fortes et tout ça. Et là c'est vrai que c'est plus un... Il n'y a pas une thématique forcément...
Il n'y a pas vraiment d'engagement, sauf qu'on a un témoignage de vie de ces personnes que je connaissais absolument pas.
D'exploration de la littérature internationale de jeunesse qui est vraiment très chouette. Allez, on continue avec un petit roman d'ailleurs. Allez, on va passer un peu au roman. Avec un roman d'aventure qui s'appelle, pour les plus jeunes, qui s'appelle La 16e clé de Éric Senabre. Éric Senabre, on l'avait connu avec tout un tas de romans qui nous avaient beaucoup plu.
On est chez Didier toujours.
On est chez Didier Jeunesse, d'accord. Tout à fait. Le premier d'entre eux, c'était Sublutetia. C'était comme ça qu'on l'avait découvert.
Ah oui, c'était le métro là.
C'était les deux enfants qui allaient sous Paris, sous Sublutetia, et qui découvraient qu'il y avait un monde sous ce monde. Eh bien, on va retrouver ce côté fantastique et puis ce côté aventure avec La 16e clé. C'est son nouveau roman. Et c'est un très chouette roman qui va à la fois nous faire vivre de l'aventure, mais aussi beaucoup de mystères. On va suivre Oswald. Oswald, c'est un jeune garçon. C'est un jeune garçon qui est plutôt adolescent. Et depuis tout le temps, il habite dans un grand manoir qui s'appelle Emioc. Et a priori, il serait atteint d'une étrange maladie qui lui interdit tout contact avec l'extérieur. Donc il ne connaît personne, ni ses parents, ni le monde extérieur du manoir. Et puis il s'est habitué à son existence comme ça, et tous les jours il y a quelqu'un qui vient le voir, qui s'occupe de lui, qui lui donne à manger, qui le nourrit, qui le fait travailler aussi, et avec qui il s'entend plutôt bien. Sauf qu'un jour, eh bien, quelque chose va vriller dans le mécanisme de tous les jours identiques et de la routine exactement. Et le jour de ses 16 ans, en fait, il va découvrir que peut-être ce manoir, il n'est peut-être pas le seul à vivre dedans, que c'est peut-être pas le seul enfant, qu'il y a une mystérieuse histoire autour de ce chiffre 16, qu'il y a sans doute des clés qui ouvrent des portes qui ne devraient pas être ouvertes. Et c'est là le début d'une aventure. Une aventure, on pourrait comparer un peu le manoir des Miocs à Poudlard.
Ah oui.
C'est ce genre de bâtiments qui sont autant de personnages dans le roman que finalement les personnages réels, puisqu'il y a tellement de recoins, de choses à découvrir. Je trouve que la description du manoir est magnifique et l'aventure le fait très très bien aussi. Donc si vous voulez un roman qui va vite, où il y a de l'aventure, mais en même temps du vrai mystère, je vous conseille fortement cette 16e clé d'Éric Senabre. Allez, on continue, et puis c'est vrai qu'on se presse un peu, le temps s'accélère.
Oui.
Et on va parler maintenant un petit peu de romans ados. Vous avez une petite sélection, notamment.
Alors, avec une uchronie, pas très gaie, c'est sûr. Là-bas, tout ira bien. Double écriture.
Le titre commençait bien.
Oui. Pascal Perrier, Sylvie Bossier, on est chez Scrinéo. Et donc, on est en 2030, c'est la crise économique. Donc, c'est une crise économique qui a eu raison de l'équilibre du pays. On est en France, hein. Tout le monde se précipite vers le nord où des rumeurs d'Eldorado sont arrivées en France. Donc, et voilà, d'un côté, Isa, Erwan et leurs parents qui s'embarquent dans cette aventure hasardeuse avec leur voiture. Et de l'autre, Léon qui quitte en vélo la ferme bretonne où il a grandi pour gagner de l'argent pour sa famille. Et nous les suivons dans leur périple chaotique et parfois très douloureux jusqu'à ce là-bas, plein de promesses. Ce qui frappe avant tout, c'est un côté très réaliste et plausible totalement de la situation. Et c'est ça qui est un petit peu glaçant parce que ça pourrait très bien nous arriver dans un futur très proche.
Tour 2030,
donc ça,
c'est demain.
C'est pas réjouissant. Et pourtant, à travers cette histoire d'apparence désespérante, faut bien dire les choses, on vit avec ces jeunes des moments d'espoir et d'humanité intense. On se met très facilement à leur place, à la place des réfugiés en plus, parce qu'il y a la notion de réfugié très très forte et on ressent parfaitement la précarité et la douleur des situations de réfugiés. C'est très fort et c'est très réaliste. Moi, je l'ai dévoré. C'est
vraiment... Alors, pourquoi deux auteurs ? Il y a deux personnages ?
Alors, il y a justement, je suppose, j'ai pas été creusée, mais c'est vrai qu'il y a d'un côté la famille d'Isa, et d'Erwan, et il y a Léon tout seul qui s'en va tout seul avec son vélo.
On peut imaginer qu'ils se sont partagés en fait.
Voilà, et ils se retrouvent, ils se rejoignent à un moment. Ils vivent vraiment des choses assez dures, mais il y a ce qui est intéressant, c'est comment ils le vivent et cette solidarité qui naît de situations extrêmes. Quoi.
Donc c'est voilà. une nouvelle dystopie un petit peu, c'est un peu une
dystopie
à la française.
Ouais, à la française, très très bien écrit, ça se dévore, et surtout on se projette. Et finalement.
C'est flippant de se projeter.
Ben c'est flippant, mais je trouve que c'est bien aussi de voir une certaine réalité.
Mais vous savez quoi, moi aussi j'ai une dystopie, ça
c'est
tombe
vrai.
Bien. Une dystopie à la française, c'est pas
aussi.
Mal.
Aussi
ouais, ça s'appelle « Et le désert disparaîtra ». C'est écrit par Marie Pavlenko et c'est publié chez Flammarion. Et c'est un vrai coup de cœur également. On va suivre l'histoire de Sama. Sama, elle vit dans un monde qui, là encore, ça pourrait être le nôtre. Alors peut-être dans un futur un petit peu plus lointain que celui que vous avez décrit, puisqu'en fait, le monde a été complètement recouvert par une couche de sable, comme un désert, en fait, voilà. Et le sable a vraiment tout mangé. Et on suit juste un peuple qui essaie de survivre. Ce peuple est nomade et il essaie de trouver, enfermé dans ces déserts, dans ces mares de sable, les arbres, les derniers arbres qui existent, puisque ces arbres, en fait, on peut les couper et les vendre sur le marché, puisqu'en fait, ça vaut très très cher sur le marché noir.
On peut les garder longtemps, alors.
Non. Et donc, dans cette tribu, dans ce peuple, il y a une partie de ce peuple qui sont les chasseurs. Et ce sont les hommes, évidemment, qui sont les plus forts, qui sont les plus...
traditionnel.
Qui partent en chasse, et ils partent comme ça plusieurs semaines pour essayer de trouver ces arbres et ramener ce qui permettra de nourrir le village pendant des semaines et des semaines. Sauf que Sama, c'est une jeune fille, et elle a un rêve, c'est de devenir chasseuse. Et ça serait la première, évidemment, à le devenir. Et pour cela, elle doit désobéir à ses pères. Mmh. Et donc, elle va faire croire à sa mère qu'elle s'occupe d'une vieille dame. Et puis, elle va partir, elle aussi, mais toute seule. Et le roman, c'est une dystopie, mais assez lente, puisqu'on va suivre le parcours de Sama, qui prend les pas des chasseurs, mais qu'elle va perdre assez rapidement. Elle se retrouve complètement perdue. On pense que c'est fini pour elle, et puis là, elle va trouver un arbre. Et cet arbre, en fait, elle va s'asseoir à côté, elle va même tomber dans le trou qu'il a formé, et elle ne peut plus remonter. Et donc, elle va être bien obligée de voir et de découvrir ce qu'il s'y passe. Et en regardant cet arbre, elle pense aux paroles de la vieille folle du village qui a été enfermée un petit peu plus loin. Et cette vieille folle dit toujours « Mais non, arrêtez de couper ces arbres, ils sont l'avenir de nous. » Et là, elle va voir la vie qu'il se crée autour de cet arbre, comment l'eau est aspirée par ça. Et il y a peut-être un espoir là-dedans. Et ce roman, il est très beau. C'est un roman assez court, hein, mais qui a quand même beaucoup de lueurs d'espoir. Et qui est, on n'est pas dans un apocalypse, on est plutôt dans quelle solution on pourrait trouver pour se sauver de ce monde.
Quelque chose de positif, quoi.
L'écriture est très belle, très simple. Vraiment, c'est un très bel ouvrage, un peu un conte philosophique en fait, qui est vraiment très très agréable à lire et que je vous conseille donc vivement.
Et on commence à dire que les arbres ont leur propre vie, leur propre temps, leur propre intelligence.
Ils communiquent entre eux et tout. Ouais. Donc vraiment ce livre, et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko, je vous le conseille. Je change juste de sujet complètement et j'enchaîne avec un autre coup de cœur. Je vous laisserai votre dernier coup de cœur pour finir. Moi, mon coup de cœur s'appelle « Mon père des montagnes » de Madeleine Roth. Madeleine Roth, c'est publié au Rouergue. Et Madeleine Roth, c'est une jeune femme qui est libraire à Avignon et qui écrit pour la jeunesse. C'est son troisième ou quatrième roman. Toujours des formes courtes, c'est toujours des romans, mais qui sont assez courts. Et cette fois-ci, elle raconte l'histoire d'un père et de son fils, Lucas. Lucas est un ado, ils ont plus ou moins coupé les liens. Lucas, il s'entend bien avec sa mère, mais avec son père, il s'aperçoit que finalement, il n'a quasiment plus aucun lien. Et il est bien désolé puisqu'il va devoir passer une semaine de vacances avec lui, dans le chalet familial, en plein milieu de la montagne. C'est un chalet complètement isolé du monde. C'est la mère qui a voulu cela. Et ce chalet, en fait, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a évidemment pas de réseau. Et donc, l'eau, elle se ramasse au bord de la fontaine, enfin, dans le petit ruisseau, voilà. Et le père et le fils, ils vont bien devoir réapprendre à communiquer. Et ce livre, il parle de ça, il parle de comment recréer des liens entre des gens qui n'en ont plus vraiment, comment la nature peut recréer des liens, puisque évidemment tout se crée par des gestes, c'est pas par les mots, parce que ce sont deux taiseux en fait, le père et le fils. Et j'ai trouvé la façon dont elle décrivait cette relation masculine en fait, vraiment remarquable. Pour moi, c'est un peu le pendant de ce qu'avait écrit Anne-Laure Bondou avec L'aube sera grandiose, du rapport féminin fille-mère. Ou alors ce qu'on trouvait aussi chez Blondel, chez Jean-Philippe Blondel dans Blog, le rapport cette fois-ci garçon-père. Enfin, c'est ces romans-là, je trouve qu'ils décrivent avec beaucoup de sensibilité le rapport qui est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'on peut avoir un rapport fort avec ses enfants, et puis quand ils grandissent, et notamment leur adolescence, ce rapport peut se distendre. Et c'est un très très beau roman, très sensible, ça fait, je crois que c'est 80 pages, et vraiment, je le conseille à tout le monde, aux jeunes et évidemment aux adultes aussi. Ça s'appelle « Mon père des montagnes » de Madeleine Roth, et c'est publié au Rouergue.
Ça donne envie.
Il vous reste un petit livre à nous donner envie aussi, vous ?
Alors, j'essaye d'aller vite, mais c'est trop fort, là, voilà, c'est Samy ou la soif de liberté, Rafik Chami, on est à l'école des loisirs, chez Medium Plus, et voilà, on connaît tous la tragédie qui se passe en Syrie depuis 2011, elle s'est passée bien avant aussi, moi je me souviens juste, ce livre m'a évoqué ma rencontre un jour, complètement par hasard à Montreuil, avec Riyad Satouf, qui venait d'écrire ma circoncision, et que j'ai acheté un peu par hasard. Et là, j'ai découvert ce qu'était l'école en Syrie sous Bachar el-Assad, sous les dictateurs, et donc avec quelque chose d'épouvantablement violent, de très bête aussi, très très absurde et bête, et ce qu'il subissait. Et là, on va par la voix du narrateur, qui est arrivé en Allemagne après une fuite comme les réfugiés, et il va parler de son ami Samy. Mais c'est alors Samy qui vivait avec lui en Syrie, dans la ville où la révolte s'est...
À Damas, non ?
C'est Daas, c'est pas Damas, c'est la ville où la révolte a démarré.
Dara,
voilà, c'est ça. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il prête sa voix à Samy. Et ce livre, une fois qu'il nous aura présenté Samy, va se composer comme un conte des mille et une nuits. À chaque fois, c'est une aventure de Samy, une aventure parfois tragique, parfois très drôle. Samy a l'habitude de se couvrir de cicatrices parce qu'il lui arrive plein de choses, mais en même temps, c'est un énorme sac d'espoir, Samy. C'est un espoir sur pattes. Et il n'arrête pas, il a un élan vital très très fort et il est pourtant confronté à des choses très très dures. Donc je signale que dans ce livre, il y a des... Alors pas du tout complaisant, hein, mais il y a des passages quand même où c'est la réalité. La réalité est dite avec ses emprisonnements, avec ses tortures. Alors sans détail, hein, je précise, mais c'est très dur. Et il y a des moments d'une légèreté absolue, c'est magnifique. Souvent, j'essaye de ne pas regarder ce qui se passe en Syrie parce que c'est désespérant et tout ça. Voilà, ce livre, moi, m'a donné envie d'aller retourner, d'aller voir, d'aller comprendre ce peuple qui souffre depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années, et aussi de les accueillir, vraiment, d'accueillir aussi leur talent narratif. Pour raconter des histoires pareilles, comme les mille et une nuits, ces choses qui se racontent sans fin. Les chapitres sont très courts, ils peuvent se lire même séparément d'une certaine façon. Et puis on apprend à la fin ce qu'est devenu Samy et comment, ce narrateur va retrouver son ami. C'est magnifique, vraiment magnifique. Voilà, ça s'appelle Samy ou la soif de liberté, Rafik Chami.
Et c'est illustré par Laurent Corvézier.
Laurent Corvézier, oui, qu'on trouve chez Rue du Monde, pas mal. Et traduit de l'allemand par Bernard Friot, qui est un très bon traducteur d'allemand.
Ouais, qui traduit beaucoup d'auteurs en jeunesse. Ouais.
Voilà.
Ben voilà, on est presque dans les heures. Pour une fois, on n'a pas trop dépassé. Il me reste une BD à présenter. Alors, c'est une BD qui ressort. C'est une réédition. Mais c'est une BD que j'aime tellement d'amour que j'avais besoin d'en reparler. Cette BD s'appelle Le Temps des Mitaines. C'est le premier volume qui ressort aux éditions d'Argo. C'est une BD qui avait été publiée chez Didier Jeunesse. C'était la seule BD quasiment qui avait été publiée par Didier Jeunesse. C'est donc Loïc Clément au scénario. C'est un de nos plus grands scénaristes en bande dessinée jeunesse. Illustré par Anne Montel, dont on a parlé tout à l'heure. Hein. C'est elle qui avait fait l'ABCDR des métiers imaginaires. Et ce tournant mitaine, c'est vraiment la bande dessinée qui nous a fait découvrir ces deux auteurs de talent. Alors, en gros, on va retrouver les aventures d'Arthur, de Kitsou, de Pélagie, de Vilo, de Gonzague. Arthur, par exemple, c'est un jeune ours qui arrive, qui est tout nouveau dans le secteur et qui va arriver dans l'école des mitaines. L'école des mitaines, en fait, c'est une école où il y a plein de personnages qui vont y vivre, des jeunes enfants, et ils sont tous des animaux. Donc on a la souris, on a Kitsou, la renarde, Pélagie, la souris qui parle un petit peu de manière dyslexique, Gonzague, l'escargot, un télo qui ne communique qu'avec un langage soutenu, n'est-ce pas ? Et Vilo, la petite luciole qui est très rigolote. Et dans cette école, il y a une mystérieuse disparition d'enfants. C'est très très dramatique. Et nos cinq héros vont commencer à enquêter sur cette disparition. On va les suivre dans leurs aventures pendant toute cette enquête. C'est absolument savoureux. L'univers qui a été créé par les deux auteurs est somptueux. Il y a plein de petites trouvailles dans l'illustration d'Anne Montel, mais aussi dans les textes de Louis Clément qui sont savoureuses. Moi, j'adore comment Gonzague parle, par exemple. C'est absolument un vrai bonheur. Et puis, Dargo a vraiment fait un très beau travail de réédition. C'est-à-dire que l'objet est plus grand, la BD est cartonnée, la couverture a complètement été refaite par Anne Montel et elle est splendide, vraiment. Ça donne très très envie de se replonger dans cet univers-là. Et puis il y a eu des pages de rajouter. Enfin, en tout cas, c'est un vrai bel objet à découvrir. Ils vont rééditer aussi le deuxième tome qui était paru chez Didier. Et puis à la fin d'année, normalement 2020, il y aura un vrai nouveau Temps des Mitaines.
Il n'y a jamais eu de dessin animé ?
Non. Non, non, mais c'est vrai que ça s'y prête très bien, c'est vrai. Hein. Mais en tout cas, c'est avec plaisir qu'on va retrouver sur nos tables Temps des Mitaines. Et on espère que vous allez découvrir ou redécouvrir cette BD qui est à conseiller à partir de 7-8 ans.
Ouais, super.
Et bien voilà, on a réussi à parler de tous nos livres. On est très content de vous avoir parmi nous. On se retrouve le mois prochain maintenant.
Bah oui,
et on est reparti
pour
une...
voilà.
Hein, on est reparti. Voilà. Hein. On va se quitter en musique comme d'habitude avec. Alors c'est la dernière chanson de cet album, donc qui s'appelle donc Tous des chats. La chanson s'appelle également Tous des chats. Vous allez voir, vous allez comprendre. C'est une chanson un petit peu parodique. C'est comme si toute l'humanité était des chats. C'est un peu les chansons humanitaires qu'on avait. Vous savez des
Ah oui,
In the World. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais version Pascal Paris. réseau avec tous ses amis. Donc on retrouve Rosemary Stanley, Thibaut de Montalembert, Alexis HK, Arthur H, la grande Sophie, Vincent Delerme, tous réunis autour de la cause des chats.
Ah oui.
On se quitte avec Tous des chats de Pascal Parizeau. À bientôt.
Au revoir.
On est tous des chats. On est tous les mêmes chats.
Chat noir, chat brun, chat gris, chat bleu, chat blanc, chat rouge,
chat jaune, chat vert, on est tous des chats frères.
Je rêve d'un monde où tous les chats se donnent la patte,
où tous les chats mangent des croquettes à leur faim.
Au-delà des barrières,
qu'on soit chat de gouttière ou chat à sa mémé,
on doit s'aimer.
On est tous des chats. On est tous les mêmes chats.
Chaque astre et chat beauté,
château, chat, pichapeau,
qu'importe le chat, tous les chats sont beaux.
Je rêve d'un monde avec un toit pour chaque chat,
un monde avec un chat sur chaque toit.
Si la blanche colombe ne se fait pas dévorer
par l'un d'entre nous, nous vivrons en paix.
On est tous des chats. On est tous les mêmes chats.
Au-delà des barrières,
qu'on soit chat de gouttière
ou chat à sa mémère,
on est tous frères.
Shalala, 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 shalala.